Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Géopolitique. Malheureusement, cette semaine, mon assistant Gauthier n'est pas là. Je serai donc seule pour effectuer cet épisode. Donc en ce point central numéro 1, nous allons nous intéresser à un sujet qui secoue énormément les ONG écologiques ainsi que la Norvège en ce moment, puisque nous allons effectivement parler de la prospection minière des grands fonds marins. Le 9 janvier dernier, le Parlement norvégien a dû voter pour ou contre l'exploration des fonds marins. La mesure a été acceptée par le Parlement à 80 députés contre 20, mais ce qui a été voté en fait, c'est une petite partie de ce qui devait au départ être voté, puisqu'initialement, les députés auraient dû directement voter sur l'autorisation d'aller exploiter les fonds marins en question. C'est de par la mobilisation des citoyens, des ONG, des activistes environnementaux ou encore des scientifiques que la pression a été mise sur la Norvège pour réfléchir et finalement modérer le vote. Effectivement, si le Premier ministre Jonas Gahr Støre assure que ces minerais sont l'élément essentiel de la transformation industrielle de la Norvège, les associations et activistes écologiques, eux, dénoncent un scandale environnemental. Il avance que les batteries et les panneaux solaires constructibles avec ces minerais, tels que le cuivre, le nickel ou encore le cobalt, pourraient poursuivre justement les travaux en matière de transition écologique. De plus, les promoteurs de ce projet mettent également l'accent sur les avantages que pourrait donner cette industrie naissante et encore plus ou moins inédite à la Norvège. On a néanmoins, comme je l'ai dit, une forte mobilisation, non seulement de la population norvégienne, mais également de la communauté internationale, au travers de pétitions ou encore de manifestations partout sur la planète. On pourrait citer la France, les États-Unis, l'Australie, et on a également des personnalités, des élus européens qui se sont positionnés contre ce projet. Par exemple, on a la célèbre activiste Camille Etienne qui s'est positionnée sur le sujet en allant jusqu'à se déplacer vers la Norvège pour manifester. Du côté activiste, on déplore en effet les 280 000 km² en danger et surtout les conséquences que pourrait avoir le lancement de cette industrie. En effet, l'exploitation ou ne serait-ce que l'exploration des fonds marins provoquerait de la lumière, des bruits indésirables, de la pollution chimique, l'introduction de métaux lourds, toxiques dans les fonds marins et d'autres perturbations dans un espace de la planète que nous ne connaissons encore que très mal. À titre de comparaison, plus de personnes ont été sur la Lune qu'en eau profonde. L'Arctique est d'ailleurs connu pour son écosystème extrêmement fragile et pour son rôle barrière dans le ralentissement des phénomènes environnementaux qu'entraîne le changement climatique. La sonnette d'alarme est donc tirée par les scientifiques qui prônent le principe de précaution face à une action peut-être irréversible. Ceux-ci ne sont d'ailleurs pas seuls, puisque 24 États s'y sont également opposés, parmi lesquels la France. Ils ont alors rejoint un moratoire, c'est-à-dire la suspension d'action par principe de précaution. Pour conclure, cette affaire serait une marque noire irrévocable sur la réputation de la Norvège en tant qu'État océanique responsable, comme le dit le PDG de EJF, Environmental Justice Foundation, Steve Trent. Néanmoins, après ce vote, les activistes écologiques sont plutôt satisfaits d'avoir réussi à gagner du temps, puisqu'il faudra un nouveau vote du Parlement norvégien pour qu'après l'exploration de ces fonds marins, une exploitation puisse se faire. Peut-être les élections norvégiennes dans 2 ans pourront changer la donne et l'exploitation minière en fonds marins pourrait devenir un véritable sujet de campagne.
Depuis un peu plus de 3 mois désormais, l'armée israélienne riposte et terrasse l'ennemi du Hamas, groupe terroriste qui a semé la terreur le 7 octobre 2023 en se rendant coupable de crimes ignobles à l'encontre des populations juives d'Israël. C'est donc dans ce contexte que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui avec vous l'armée israélienne et que j'ai choisi en guise de titre de chronique « Tsahal, la diplomatie par le fusil ». Pour comprendre Tsahal, pour ceux et celles d'entre vous qui ne sauraient pas, c'est ainsi que l'on nomme aussi l'armée israélienne, il faut remonter au début de l'État d'Israël. Comme vous le savez, ou pas, l'État d'Israël est proclamé le 14 mai 1948 par l'intermédiaire de David Ben-Gourion et l'armée est fondée elle aussi en 1948 dans un même mouvement. L'armée israélienne, et c'est l'une de ses particularités qui explique aussi sans doute beaucoup de ce que nous pouvons voir aujourd'hui, a vu le jour dans un contexte de guerre israélo-arabe. Dès sa création, elle a dû faire face à des défis sécuritaires majeur, ce qui a forgé son identité et son caractère défensif. En effet, dès le lendemain de sa proclamation, entendez-vous bien, dès le lendemain de sa proclamation, l'État d'Israël est déjà en guerre contre les États arabes voisins qui l'attaquent. Israël dispose tout simplement d'une armée qui est aujourd'hui considérée comme l'une des plus puissantes du monde. En effet, et j'ai l'habitude désormais d'utiliser cette source, vous le savez, mais selon le CIPRI, l'Institut International de Recherche sur la Paix de Stockholm, Israël est le 15e pays consacrant le plus d'argent à ses forces armées. C'est bien simple, Israël consacre 4,5% de son PIB, produit intérieur brut, à son armement. Par comparaison, assez patriotique je vous l'accorde, la France consacre depuis les années 2000 environ seulement 2% de son PIB à son armement. Mais bien au-delà de ces quelques chiffres, c'est surtout l'équipement moderne et la recherche constante d'innovations technologiques qui font de Tsahal une armée reconnue et puissante. Cette armée est notamment réputée pour avoir mis en place un système de défense antimissile qui fait pâlir bon nombre de pays et qui se veut comme l'une des plus efficaces au monde. Assez discutable, me diriez-vous, quand nous regardons à nouveau les images de l'intrusion presque facile des terroristes du Hamas. Son nom, le Dôme de Fer, permet donc à Israël de vivre sous cloche, alors que les puits de roquettes venant du Hamas au sud et du Hezbollah au nord étaient le quotidien des Israéliens. Mais Tsahal, c'est aussi un arsenal conventionnel conséquent. 2200 blindés pour la Méditerranée. La France en a 10 fois moins. La grande force de l'armée israélienne réside dans ses forces aériennes. Elle dispose de 339 avions de combat, contre 200 pour la Méditerranée française. Enfin, et parce que jamais 203, sa marine est composée de 49 navires et de 5 sous-marins. Tsahal est reconnue mondialement pour son innovation militaire. Elle a constamment investi dans la recherche et le développement de technologies avancées, des systèmes d'armes sophistiqués aux tactiques modernes. Et c'est cette recherche constante d'excellence qui a permis à l'armée israélienne de rester à la pointe de la technologie militaire. L'État hébreu ne possède pas l'arme atomique. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou refuse catégoriquement que ses installations nucléaires militaires soient contrôlées par l'Agence internationale de l'énergie atomique et affirme donc ne pas disposer de la puissance nucléaire. Mais vous voulez vraiment savoir ? Eh bien, officieusement, et je ne suis même pas membre des services secrets français ou russes, mais l'armée israélienne disposerait d'une centaine de têtes nucléaires, que l'on nomme aussi ogives nucléaires, donc la réponse, c'est oui. La grande particularité de Tsahal, et cela étant notamment le résultat de son histoire, une histoire guerrière, une histoire faite d'opposition et de conflits, c'est le service militaire obligatoire imposé par le gouvernement. Ce service militaire obligatoire s'impose à tous les citoyens, hommes et femmes, à partir de l'âge de 18 ans. Les citoyens consacrent donc une partie de leur vie à la défense de leur pays. Cette démarche, elle contribue non seulement à la sécurité nationale, mais aussi à la création d'un lien fort entre les citoyens israéliens dans l'objectif de faire nation. J'ai bien compris, il faut que je parle chiffres. D'abord, le service militaire dure presque 3 ans pour les hommes et 2 ans pour les femmes, en règle générale. L'effectif, sans les réservistes, et je ne l'ai pas mentionné encore, mais s'élève à environ 170 000 militaires. Mais surtout, et c'est le plus impressionnant, l'armée israélienne peut compter grâce à sa conscription sur un réservoir de 450 000 réservistes. En France toujours, pour comparer, nous avons dans les alentours de 43 000 réservistes et sommes loin de revoir un service militaire obligatoire, bien que le service national universel SNU ait été mis en place par l'actuel chef de l'État. Ce qui fait également la force de cette armée, c'est le soutien qu'elle reçoit de la première puissance militaire mondiale, rien que ça, les États-Unis, comme vous l'aurez compris, qui aident l'armée israélienne, notamment financièrement, et le journal Les Échos titrait il y a quelque temps « Les Américains plus prompts à aider Israël que l'Ukraine ». En effet, Israël a l'une des armées les mieux équipées au monde, en partie grâce à l'aide militaire américaine, qui s'est élevée à 124 milliards de dollars depuis la création de l'État hébreu et à 3,8 milliards par an ces dernières années. Israël achète les F-35 américains, les deux co-développent des systèmes de défense antimissiles, bref, ce sont des alliés inconditionnel. Vous l'aurez donc compris, au fil des décennies, Tsahal a été engagé dans plusieurs conflits, des guerres israélo-arabes aux opérations militaires contre des groupes terroristes. Ces défis ont souvent mis à l'épreuve la résilience et la détermination des forces armées israéliennes, comme cette journée du 7 octobre 2023 qui est désormais entrée dans l'histoire de ce pays. Malgré cela, Tsahal a su défendre le pays et garantir la sécurité de ses citoyens. De la guerre des 6 jours en 1967 à celle du Kippour déclenchée en 1973, Tsahal a dû faire face et continue de faire face à des défis complexes, qu'ils soient liés aux tensions régionales, aux groupes extrémistes ou aux enjeux politiques. Son rôle reste primordial dans la préservation de la sécurité et de la stabilité dans une région où les enjeux sont nombreux et variés. Tsahal, l'armée israélienne, incarne bien plus qu'une force militaire. Elle reflète l'histoire, la diversité et la résilience d'une nation. À travers ses défis et ses succès, elle demeure un élément central de l'identité israélienne, forgée par un héritage riche et une détermination inébranlable à assurer la sécurité et la prospérité de son peuple. Bien sûr, par sa puissance et sa réaction féroce contre le Hamas, l'armée israélienne paraît de nos jours clivante, mais comme l'a affirmé le philosophe Américain Michael Walzer, la justice exige la défaite du Hamas, pas la vengeance contre les Palestiniens. L'armée israélienne mène un combat pour sa survie, parfois certes en s'écartant des conventions internationales. Inférieure numériquement face à tous ceux qui veulent et souhaitent sa disparition, Israël réplique par l'intermédiaire d'une armée marquée par l'histoire et la barbarie. Vulnérable, Israël l'est, puissante est son armée, mais peu l'intéresse la diplomatie, si ce n'est celle qu'elle mène par le fusil.
La motoneige, c'est le seul moyen de rallier Barentsburg. Sur le 87e parallèle nord, niché dans l'archipel norvégien de Svalbard, une petite colonie de mineurs russes et ukrainiens travaille à l'abri de tous les bruits du monde depuis plus d'un siècle. Une bulle hors du temps menacée de se transformer en caisse de résonance d'un conflit qui se déroule à plus de 3000 km de là. En guise de contextualisation, Barentsburg est l'archipel le plus septentrional du monde. Au centre de la colonie de peuplement, on retrouve un buste de Lénine avec une inscription « Le communisme est notre but à tous », ce qui illustre parfaitement l'héritage soviétique de la ville. Celle-ci a été érigée en 1932 par l'URSS à l'intention de 300 personnes. Mais bien sûr, à la chute de l'URSS, il n'y avait plus assez de Russes pour y travailler et on y envoie alors des Ukrainiens, et ce, même si c'est un territoire norvégien. Nous avons donc ici un village qui reflète l'ensemble des tensions géopolitiques européennes avec la guerre en Ukraine. À la fois rivalité Russie-Ukraine, mais aussi Union européenne-Russie, mais également le soutien de l'Union européenne à l'Ukraine. Ayons à présent un regard précis sur les tensions à Barentsburg. D'abord, la compagnie minière est russe, Arctic Ukol, et elle censure la parole de ses ouvriers pour qu'ils travaillent tout en servant la propagande russe. Les mineurs, eux, sont tous recrutés dans le Donbass. Depuis la guerre, la Russie intensifie son emprise et comme le dit le gouverneur norvégien de la région, c'est très difficile d'obtenir des chiffres réels. Résultat, la région est poussée au silence, la liberté d'expression est bafouée et si la ville est vue comme un refuge pour certains, d'autres sentent les tensions s'apesantir depuis le début de la guerre russo-ukrainienne. Quand les habitants, qu'ils soient russes, ukrainiens ou norvégiens, étaient habitués à vivre ensemble de façon pacifique, les choses ont immédiatement changé et l'on retrouve de plus en plus de démonstrations nationalistes du côté russe. On peut par exemple évoquer une parade de bateaux russes en eau norvégienne. On a également des tensions énergétiques puisque les mines de charbon sont essentielles à la Russie pour préserver son autonomie. Autre souci, lui économique, il n'est possible d'utiliser uniquement une carte bancaire seulement si elle est russe. Mais alors, le cœur du problème est le suivant. La ville de Barentsburg fait partie du territoire norvégien. On peut alors se demander que font les Occidentaux. Le gouverneur de la région, Lars Foss, le dit explicitement et explique par ailleurs que son travail, lui, est simplement de prendre soin de la paix et de la stabilité de l'archipel. Les politiques de sécurité, elles, concernent la Russie, l'Union européenne et la Norvège. Cependant, le désir de voir la ville habitée par plus de Norvégiens n'est pas masqué, puisque le pays paye tout de même 1,3 milliard de couronnes norvégiennes chaque année pour entretenir la ville. Les hommes politiques ont donc l'ambition de voir s'installer sur le territoire une communauté norvégienne plus conséquente. C'est donc la fin de cet épisode du Géopolitique. Merci à tous d'avoir écouté. N'hésitez pas à réagir dans les onglets communauté. Et on se retrouve bien entendu la semaine prochaine, le lundi à 9h comme d'habitude. Prenez soin de vous. You feel so distant with such a disguise. Why don't you leave it all behind and come back home? I'll make some sweets and tea just like it used to be. You say you had to take the chance.